Pierre Barral, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant chez Conviction Asset Management. On va parler avec vous de marché et de perspectives. Si on commence peut-être par un petit bilan, comment vous avez, je dirais, observé, réagi aussi à ce premier semestre favorable au marché action, mais on avait eu un début d'année favorable au marché obligataire, donc pas forcément évident. Quel est votre regard sur le marché aujourd'hui?
Une chose est sûre, hein, c'est vrai qu'il faut bien dire que le marché obligataire a surpris beaucoup de monde parce qu'en effet, en début d'année dernière, si on se replace dans le contexte, on était globalement tous plus ou moins en faveur d'une anticipation de remontée, de renormalisation de la politique monétaire américaine et donc d'une remontée des taux, au moins des taux américains. Ce qui finalement ne s'est pas produit puisque les taux américains ont continué à baisser et ils ont continué à baisser sur un premier trimestre de croissance aux États-Unis, qui a été somme toute très décevante, puisqu'il affiche moins 2,9%, ce qui est un chiffre extrêmement faible et qui a été pour beaucoup, en tout cas, dû à des conditions climatiques terribles qui ont généré en effet une forte baisse de la croissance. Donc les actions, de ce point de vue-là, ont continué, enfin ont plutôt bien performé, on peut le dire, mais on force est de constater qu'on peut parler aujourd'hui de déception sur la performance des actions, de ce fait-là notamment, et c'est la performance obligataire qui a été la plus forte depuis le début de l'année en tout cas.
On pourrait dire qu'aujourd'hui, effectivement, tout le monde reste favorable à ces marchés actions. On dit souvent qu'on ne peut pas se battre contre la réserve fédérale américaine. Ça reste le cas, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de fonds, de mouvement de liquidité qui va se positionner sur cette partie-là.
Bah oui, c'est certain, même si aujourd'hui on note quand même un décalage de plus en plus marqué et prononcé entre les banques centrales des grands pays développés. Je pense notamment à la Banque d'Angleterre, qui sera probablement la première à remonter ses taux, en tout cas c'est ce qu'elle est en train de préparer. L'autre, c'est la Fed, qui est très clairement en train de débattre et d'avoir un débat d'ailleurs qui est en train d'enfler hein, autour du board de la Fed sur la nécessité d'un resserrement monétaire peut-être avant la date prévue, en tout cas la date estimée aujourd'hui par la Fed et par les marchés autour de la moitié de l'année 2015, il y a un débat qui est en train de naître sur la remontée de l'inflation. C'est-à-dire que la Fed est en train de réussir son pari puisqu'elle a souhaité, elle a cherché à reflater l'économie depuis 2 ans, 3 ans, et aujourd'hui c'est un pari qu'elle est en train de regagner puisque l'inflation est en train de remonter, notamment depuis février où on a une pente, une accélération de l'inflation qui se fait sur un rythme cohérent aujourd'hui avec une renormalisation finalement peut-être un peu plus rapide que prévu des taux d'intérêt.
Alors la Banque centrale européenne, celle-là, par contre, effectivement, elle, éventuellement, il y a des risques de déflation. On n'est pas dans le même calendrier, on peut dire.
Exactement, donc c'est la troisième grande banque centrale. Avant celle-ci, je mettrais peut-être la Banque du Japon, hein, on en parlera après, mais c'est vrai que pour ce qui concerne la BCE, on est à la fin en fait de ce décalage conjoncturel avec une BCE qui est confrontée, elle, pour le coup, à une inflation qui continue à baisser ou qui reste en tout cas sur des niveaux extrêmement faible, avec un risque déflationniste hein, qui est bien sûr toujours présent, mais une croissance qui a probablement touché un point bas et qui est en train de commencer à remonter. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce qui a donné, en tout cas à M. Draghi et à l'ensemble de la BCE d'ailleurs, la possibilité et la confiance pour pouvoir se lancer dans un très fort programme de politique, on va dire, hétérodoxe, en tout cas potentiellement, même si aujourd'hui les achats d'obligations ne sont pas encore entérinés et n'ont pas démarré, ils sont en tout cas dans les tiroirs et c'est quelque chose qui pourrait arriver à un moment ou à un autre. En tout cas, on a décidé à la BCE de mettre les taux de dépôt en négatif, ce qui n'a jamais été fait à la Banque Centrale Européenne. C'est quelque chose de très novateur, de très nouveau. Donc ça, c'est un point important qui montre à quel point on en est qu'au début, finalement, ou au mieux au milieu hein, d'une politique monétaire qui va rester très accommodante et pendant probablement très longtemps. Donc on a des taux en Europe qui certainement, eux, vont rester bas pendant très longtemps.
Alors, vous parliez du Japon, là, il y a pas mal d'investisseurs qui ont raté, on va dire, le début, en tout cas sur la partie action. Comment on regarde ce marché japonais avec là aussi une politique particulière qui a été mise en place? Il y a eu un certain nombre d'effets, mais il y a aujourd'hui des questions sur, on va dire, la continuité de cette politique.
Il y a 2 points en ce moment très importants qui expliquent la remontée du Nikkei, du marché japonais ou du Topix. C'est vrai qu'on constate un retournement du marché. Au mois de juin, par exemple, parmi les marchés développés, c'est le marché japonais le best performer, celui qui a établi la meilleure performance depuis le début de l'année. Ceci est probablement dû à 2 choses. D'abord, un, les Abenomics qui continuent à être mise en œuvre par le gouvernement Abe, même si on a encore beaucoup de questions sur leur efficacité et sur le temps qu'il faudra avant qu'elles délivrent vraiment de l'efficacité, notamment en ce qui concerne cette fameuse troisième flèche. Le vrai point qui, selon moi, est important, c'est également la décision de faire du GPIF, qui est le fonds de pension national, et qui est un fonds très important en encours, de réallouer assez progressivement, mais dans des proportions relativement importantes, son allocation des taux vers les actions. Donc ça, c'est un point de vue très important du point de vue des flux. On a des flux qui sont porteurs sur le Nikkei aujourd'hui. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on arrive on constate une progression du marché qui, et ça ne se faisait pas jusque-là, se fait sans baisse à nouveau du yen. Et ça, c'est assez nouveau dans ce phénomène. C'est probablement dû en effet à des flux très porteurs sur les actions.
Alors on voit ces politiques monétaires, hein, ces banques centrales qui finalement mènent le jeu, on peut le dire. On a vu ce que ça avait donné d'ailleurs sur les marchés émergents à un moment donné. Est-ce qu'il y a, de votre point de vue à vous, plus d'opportunités aujourd'hui sur les marchés émergents, où il y a toujours ce risque, on va dire, d'effet secondaire quelque part par rapport à la politique monétaire de la Fed?
Alors, le risque essentiel auquel vous faites allusion, c'est en effet celui qui a délivré beaucoup de soucis, beaucoup de gérants d'ailleurs, c'est-à-dire la baisse de l'année dernière, en mai-juin de l'année dernière, avec un débouclement des carry trades, hein, et des positions de portage qui s'étaient accumulées tout au long des années sur les marchés émergents. C'est vrai qu'il y en a beaucoup moins pour le coup. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le marché émergent dans son ensemble est beaucoup moins homogène qu'il ne l'était il y a encore quelques temps. On a un marché qui est très hétérogène et il faut vraiment travailler ce marché-là, point par point, marché par marché, puisque chacun de ces marchés a sa spécificité aujourd'hui et on ne peut que difficilement parler globalement des marchés émergents. Ce que je voudrais juste préciser de ce point de vue-là, c'est que jusque-là, en tout cas, on n'a pas encore de vraie surperformance des marchés émergents, mais on a les prémices de certains marchés qui sont probablement en train de pouvoir bénéficier de la reprise de la croissance mondiale, une croissance mondiale qui va s'établir entre 3 et 3,5% et qui donc va bénéficier à certains de ces pays à partir du moment où il s'agit de pays qui auront entamé des réformes et qui seront comprises par le marché et cohérentes, et à partir du moment également où les calendriers politiques, puisque ça a été le cas jusque-là, les calendriers politiques seront moins chargés qu'ils n'étaient auparavant.
Le mot de la fin, les principaux risques aujourd'hui, vous les voyez où sur cette, entre guillemets, euphorie sur les marchés actions, en tout cas cette préférence pour les marchés actions, vous les voyez sur la géopolitique qui s'installe, parce que pour l'instant on voit peut-être qu'il y a tellement de flux que finalement les investisseurs, on va dire, j'ai dit récemment, ont chaussé leurs lunettes roses.
Oui, ils ont chaussé leurs lunettes roses et pour cause. Hein, les banques centrales, vous l'avez dit, sont toujours présentes. Même si la Fed arrêtera à octobre, a priori fin octobre, d'injecter des liquidités, la BCE est encore dans ce principe-là, on l'a dit, la Banque du Japon également. Donc là, on est toujours dans ce phénomène-là. Le risque principal aujourd'hui, selon moi, viendra du côté de la Fed et de sa capacité à communiquer auprès du marché le moment où elle va devoir commencer à remonter ses taux. Et on a bien vu l'an dernier à quel point c'est un exercice difficile parce qu'il peut avoir des conséquences très néfastes, notamment sur le marché obligataire. Aujourd'hui, où il y a énormément de positionnement sur des taux qui sont devenus extrêmement faibles, il est absolument évident que le travail de la Fed pour préparer le marché à une remontée des taux, voire à une baisse de son bilan, parce qu'il va falloir qu'elle rebaisse son bilan, eh bien sera l'exercice probablement le plus compliqué et même peut-être le plus dangereux. Évidemment, la géopolitique reste un enjeu important. La géopolitique, on y est confronté régulièrement. On l'a vu avec l'Ukraine, on l'a vu avec la Russie, on le voit avec l'Irak aujourd'hui. Malheureusement, c'est toujours difficile de gérer en prévision, mais ça reste évidemment des risques très importants.
Merci Pierre Barral d'avoir été avec nous.
Je vous en prie.